La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Rebonjour, deuxième partie de la midinale de Piquet en ce 30 mai 2022, donc dans laquelle, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on va parler de la mobilisation dans les EHPAD. Avant de présenter tout ça, on va commencer direct par une petite musique, un duo par le duo du bas, ça, les géantes, qui nous font Elle te regarde. On enchaîne avec une petite interview qui contextualise la chose et derrière on revient au micro pour parler de tout ça. À tout de suite.
Et vous, si vous voulez avoir des racines, vous trouverez des jolies quand il fera beau. Si, si, il y en a des belles maintenant. Oui. Après, on donne un coup de brosse à eux, tu leur mets des yeux et des pattes. Qu'elle tient debout. Ah oui, et on lui met des yeux de poupée. Des fois, on trouve des poupées jetées à la poubelle, des poupées qui ont leurs yeux, il faut les ramasser. Voilà.
Rangées consciencieusement, elles sont d'un autre temps. Elles te regardent de leurs yeux sales, leurs yeux pâles, ébahis, mécontents. Elles te regardent. Leurs racines sont en cire et leurs mains de pastel figées s'encrassent. L'humidité dans les pieds, la mousse verte poussant, se soucier d'autre chose. Elles poussent et glissent les cartons secondaires, les photos. Elles te regardent. Aux vitres, le paysage n'est plus qu'une blancheur sale. Qui te regarde, ça dégouline, mais toi là, tu souris et tu t'assois au coin, tu me regardes. Sans gêne, sans dents, tes bigous, den ranwen et m'amène là où les racines poussent. Des yeux de poupée qui pétillent, figés, fils brodés, cousus sur tes poupées. Des yeux de poupée qui pétillent, figés, fils brodés, cousus sur tes poupées. Tes mains douces, tu me pousses vers le formica gris. Je te regarde. Une cassette me rappelle à tes souvenirs perdus dans ton regard. Tes yeux brillent de ton passé, des bribes un peu mélangées, mêlées, elles nous regardent. On les dérange, les bouleverse, t'improvises et tu cherches au fond parmi les ombres. Tu es parti les chercher, tes racines, tes poupées, tu regardes. Là-bas, il y en a sûrement plein, plus qu'à trouver les coins dans ton regard. Tes yeux sont restés fermés, ta maison s'est vidée, les poupées nous regardent. Un ange de plus s'est passé, il reste à ramasser les racines oubliées. Des yeux de poupées qui pétillent, figés. Figé, figé, brodé,
Bah, du coup, on se bat pour garder nos dimanches bien comptés doubles et pas une majoration de 50% comme ils nous proposent là actuellement. Les jours fériés aussi également. Et on se bat aussi pour avoir des meilleures conditions de travail. Hein, parce que qui dit tout ça dit aussi que les résidents vont forcément en pâtir. Et c'est pas ce qu'on souhaite.
Si jamais vous étiez plus, qu'est-ce que vous feriez mieux?
Si on était plus, ça serait tout ce qui est animation auprès des résidents, soins de confort, soins de bien-être surtout. Leur proposer plus de temps, de discussion, de parole, être plus présent pour eux aussi et pas qu'on soit speed auprès d'eux à faire une toilette parce qu'on n'a que 5 minutes et voilà quoi. Donc non, ça serait surtout au niveau de l'animation, au niveau des soins de bien-être et surtout d'avoir le temps de parler avec eux parce qu'ils en ont beaucoup besoin et voilà, tout le contexte psychologique aussi pour eux, c'est pas forcément évident. Donc voilà.
Puis j'imagine qu'en plus, avec le vieillissement de la population, il n'y aura pas moins de résidents et de résidences plus tard, au contraire, quoi. Donc se battre maintenant, c'est aussi assurer l'avenir, quoi. Pour...
Tout à fait. On pense aussi aux générations futures et aux générations futures, du coup, de la population vieillissante, mais aussi nos futurs collègues infirmiers, aides-soignantes, ASH, qui, eux, rentrent tout juste dans le milieu ou vont rentrer prochainement dans le milieu dans quelques années. Et on veut leur laisser quand même quelque chose qui va rester et qui ne sera pas dégradé par le temps.
Bon, du coup, moi, je vais laisser la parole à Marion et Kevin, qui ont très bien préparé ce sujet et qui ont été faire les reporters et reportrices de terrain.
Ouais, ça nous paraissait important de visibiliser la mobilisation qui se passe en ce moment dans les EHPAD. Donc, pour rappel, en fait, parmi toutes les résidences pour personnes âgées à Brest, il y a 3 structures qui sont municipales, qui sont cofinancées à la fois par la ville, par l'ARS, l'Agence régionale de santé et le conseil départemental. Il y a l'EHPAD Carlet-Vénèze, l'entité EHPAD Louise Leroux-Antoine-Salin et puis la résidence autonomie Poulard-Bachette. Donc le personnel de ces établissements ont déjà lutté pour de meilleures conditions de travail il y a quelques temps. Depuis, le Covid est passé, donc on sait que ça a été particulièrement dur pour les résidents et le personnel. Et les conditions n'ont pas été améliorées, loin de là. Et d'autant plus que la mairie argue d'une pression financière pour dégrader les conditions de travail actuelles sous prétexte d'un cofinancement difficile à tenir. Donc ce que la collectivité envisage aujourd'hui, c'est des suppressions de postes à temps plein sur une des structures d'ici 2025, la diminution du temps de récupération après un dimanche travaillé, la collègue en parlait tout à l'heure, et la diminution d'un remplacement avec des équipes qui travaillent déjà en sous-effectif et une augmentation de leur temps de travail en arguant de la récente loi sur la transformation de la fonction publique qui les fait passer à 1607 heures alors que des dérogations sont possibles pour des personnels qui travaillent avec des emplois du temps particuliers. Donc ça aurait pour conséquence à la fois pour le personnel une qualité de travail dégradée, un épuisement du personnel. Hein, déjà, ils sont... rappeler sur leur temps de congé avec des successions d'appels pour venir remplacer du personnel manquant et donc une pression psychologique, donc un épuisement possible physique et psychologique, un impact sur la vie professionnelle et privée. Donc je viens d'en parler, quand on t'appelle 4 fois alors que tu es en train de faire les courses, et tu finis par décrocher ton téléphone pour pas faire peser sur les collègues et les résidentes et résidents. Et puis une désertification des métiers médico-sociaux. Et on en parlera tout à l'heure, il y a des mobilisations en ce moment et c'est un secteur qui est quand même menacé alors qu'on a eu de belles promesses pendant le Covid, mais là il semblerait que les conséquences ne soient pas au rendez-vous. Donc ça c'est pour le personnel et puis évidemment des impacts sur les résidentes et les résidents avec une augmentation du prix des loyers, un service public qui se dégrade, une diminution de la qualité des soins et de l'accompagnement. Donc on l'a entendu un petit peu avec la personne qui a été interrogée là, et puis on va l'entendre tout à l'heure avec d'autres sur concrètement ce que ça peut avoir comme conséquence en termes de temps de prise en charge, d'accompagnement des toilettes, etc. Ça aurait un impact aussi de manque de relationnel auprès des résidentes, des résidents et des familles, parce que si on a moins le temps de parler, c'est toute cette qualité relationnelle qui est mise à mal, une perte de la qualité de vie et du bien-être, et puis une perte de repères et d'identification du personnel, parce que quand le personnel change tout le temps, qu'il y a des contrats courts et qu'on a tout le temps en face de nous des gens qu'on ne connaît pas, surtout pour des soins intimes et relationnels, ça peut être très difficile à vivre. Voilà, donc ça c'est le contexte. Il y a une mobilisation assez forte en ce moment, donc les personnels sont en grève. Il y a une réquisition pour assurer un service minimum, mais le personnel massivement est accompagné par une intersyndicale avec les 5 syndicats représentatifs. Donc nous, autour de la table, on est plusieurs à faire partie de Sud, collectivité territoriale. Mais il y a dans cette intersyndicale aussi FO, Force ouvrière, la CFDT, la CGT et l'UNSA. Donc les syndicats accompagnent le personnel dans cette lutte. Et il y a plusieurs mobilisations à venir, on va en parler. Mais peut-être que pour se faire l'écho et laisser parler les personnes directement concernées, on peut vous faire écouter un son qui a été pris lors d'une récente mobilisation Place de la Liberté.
Oui, tout à fait. Moi, je voulais juste rajouter un truc. J'y ai repensé là, pendant qu'on présentait le sujet. Le contexte, il est aussi celui de la sortie du bouquin « Les Fossoyeurs », donc sur le groupe Orpea. Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Parce que en fait, Richard Ferrand, quand il a été interrogé par rapport à la sortie du bouquin, il s'est vanté en fait que dans le Finistère, il y avait qu'un seul établissement qui était géré par ce groupe, et que globalement, ça sous-entendait que en Finistère, il n'y avait pas du tout de problème dans les EHPAD. Il mettait même, donc il cite, je le cite, les autres EHPAD appartenant à des associations qui ne cherchent pas à faire de l'argent sur les soins. Donc en fait, il faut pas, c'est pas parce que ce groupe a été mis en lumière et tout le fonctionnement qu'il peut y avoir qui est dégueulasse et qu'on va continuer à découvrir, je pense, au fur et à mesure. C'est pas parce que ce truc est dégueulasse que à côté de ça, les autres structures, que ce soit des structures publiques ou associatives, sont exemptes de toute critique, quoi. Et puis voilà, je pense qu'on peut lancer le sujet. Du coup, il y a une prise de parole qui a été captée mercredi dernier lors du rassemblement à la mairie. Donc une prise de parole des organisations syndicales et ensuite prise de parole de personnel.
Voilà. De Brest, donc.
De Brest même.
À tout de suite.
Là, ce qu'il propose, c'est les 1586 heures, mais 2607, à recouper sur la majoration du dimanche et des jours fériés. On va interpeller le préfet, sous-préfet, donc comme on a dit, mardi devant la sous-préf, et le jeudi, on irait sur Quimper au conseil départemental et à l'ARS. C'est la tripartite, donc l'ARS, ça c'est l'État, le conseil départemental, et ici, nos élus brestois, un bloc aussi, ils disent qu'ils sont que gestionnaires, ils continuent à bloquer, ça n'a pas l'air de les inquiéter, ce qu'ils disent, comme il y a les réquisitions, on peut continuer, quoi. Là, sur les réquisitions, il y a des trucs qui ne vont pas du tout. Vous devez les recevoir par recommandé et pas par téléphone ou SMS. Ils vous promettent des postes de titulaire. Sauf qu'on n'a pas eu le nom, on n'a pas eu les conditions, on n'a pas eu la quantité de temps de travail. Pour les contractuels, c'est pareil. On leur dit vous aurez un planning, sauf qu'on n'a toujours pas de planning. Donc tout ça, ce n'est pas chiffré, il n'y a pas d'écrit. Il n'y a rien. Corinne va prendre la parole.
C'était pour par rapport à Madame Avivin qui dit que les dimanches, là on bosse comme les week-ends et qu'il n'y a pas de problème. Moi je trouve ça un peu dérangeant. Déjà les effectifs ne sont pas les mêmes, les tâches ne sont pas les mêmes. Et après si ça ne la dérange pas que les gens, les raisons n'aient pas forcément des douches hebdomadaires, ce qui n'est déjà pas génial, mais encore moins que ça, pas de shampoing, pas de rasage, les ongles pas coupés. Tout ce qui peut être en soins d'hygiène, donc les modes dégradés portent bien leur nom. Les soins à deux qui ne sont pas faits à deux, comme ça devrait être aussi.
Justement, je trouve que c'est un peu facile parce qu'ils savent qu'on est un métier de soignant. Donc forcément, on ne peut pas abandonner notre poste comme ça peut se faire dans certaines autres corporations. Donc ils savent qu'on fera le maximum pour que les EHPAD tournent. Et quand tu as entièrement raison, je trouve qu'il faut le préciser dans la presse. Mode dégradé, ça veut dire quoi? Oui, on va être là au boulot, on va faire notre maximum, mais dans quelles conditions? Qu'est-ce que ça va être pour les résidents? préciser des choses concrètes comme ça. Ils n'auront pas une douche par semaine, ils n'auront pas telle chose, mais on va amener vraiment de vrais exemples, parce que c'est ça qui porte auprès de la population, pour qu'ils puissent se rendre compte de la réalité des choses.
Les politiques disaient, avant la crise Covid, le monde d'après sera pas comme le monde d'avant. Mais là, actuellement, le monde d'après est encore pire que le monde d'avant. Après le Covid, on pensait quand même que les élus politiques vous entendraient, les soignants. La population vous applaudissait à 20h le soir avec les casseroles. On a fait remonter tout le mal-être, même des patients, avec le manque de moyens, le manque de personnel, le manque de reconnaissance. Et là, maintenant, ce qu'on propose, c'est encore des conditions pires qu'avant. Parce que le Ségur, c'est bien beau, sauf que pour les résidences de personnes âgées, les personnels ne touchent pas. Pour les EHPAD, il y a une partie, donc il y a des trous dans la raquette. Pareil pour les collègues du CCAS aussi, dans le médico-social, ils ne touchent pas non plus. Donc il reste des trous dans la raquette à boucher, quoi. Bientôt, il y a les législatives quand même qui arrivent, et on va interpeller les élus pour qu'ils donnent leur position avant les votes, pour qu'au moins les Français sachent pour qui ils votent. Et dans quelles conditions, nous, on saura dans 15-20 ans, lorsqu'on devra aller dans les EHPAD. Ça aussi, il faut que la population se rende compte que ça se dégrade au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas que les soignants, il n'y a pas que les résidents actuels qui sont concernés. C'est carrément toute la population entière, que ce soit dans les EHPAD, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les cliniques. Là, on voit très bien que ça coule. Donc, il faut que la population aussi bouge avec vous, que les élus nous entendent. Pour ceux qui disent qu'on n'est pas nombreux, il faut savoir que 3/4 du personnel est réquisitionné. Sinon, on serait le triple, sauf que votre boulot ne permet pas de faire grève lorsque vous êtes réquisitionné. Donc, il n'y a pas le choix. Donc, ça aussi, il faut le faire entendre.
Il y aurait peut-être besoin d'une précision aussi sur les désignations. J'ai entendu dire que dans une structure, la direction fait circuler un document à signer, Carlevenez aussi. Voilà. Donc, est-ce que c'est légal pour justement identifier l'agent qui est en grève et qui débraye? Alors, est-ce que l'agent peut refuser justement de remplir ce courrier, quoi, enfin, cette lettre?
Alors, pour en revenir là-dessus, c'est dans le protocole de grève. Vous n'avez pas à vous déclarer gréviste. C'est à la collectivité et à l'employeur de constater que le personnel qui n'est pas réquisitionné n'est pas présent. À aucun cas, vous ne signez un document comme quoi vous êtes gréviste. C'est dans le protocole de grève.
Je voudrais faire un petit rappel à toutes les personnes qui sont concernées. On est trois sur le contrat précaire. Ça ne devrait pas exister. On est quelques personnes à être sur des lignes à 100%, 100% voire plus, avec des congés sur une ligne à 100%, alors que moi et des collègues, on est entre 50 et 60% de titularisation. Donc on devrait nous donner nos plannings à 60 ou 50%. On perd des congés, on perd sur les primes et on perd en vie. On ne cotise pas à la cotisation pour la retraite dans la fonction publique non plus. Voilà, donc on est perdant. On est là, on fait bouche-trou, faut que ça bouge. Voilà.
Aujourd'hui, on n'a plus le droit de soigner les gens de cette façon-là. Des moyens, il n'y a plus le choix. On en a besoin, on les aura.
Mesdames, messieurs les usagers, circulez une pétition. N'hésitez pas à la signer en soutien au personnel soignant des EHPAD.
Non, mais qu'est-ce qu'il faut pour une manifestation?
Moi, je suis titulaire d'un 60% sur un roulement. On me donne un planning à l'année à 100%. Et on est trois dans ce cas-là. Avec, évidemment, à 60%, vous cotisez pas pour la retraite des fonctionnaires. Vous avez les primes à la hauteur d'un 60%, même si je fais plus d'un 100%. Et il y a aussi une chose, c'est qu'on nous donne un planning à l'année à 100%. On pose des congés dessus à 100%, sauf qu'on a que 60% de congés. Ils veulent pas nous donner les plannings. Moi, ils veulent pas me donner mon planning à 60%. Alors que je suis sur une ligne à 100%, donc c'est qu'il y a des besoins. Voilà, et on est trois comme ça. Donc là, moi, je revendique le fait qu'il faut nous titulariser sur un temps plein, puisqu'il y a du travail.
Le temps plein, c'est ce que tu voudrais?
Oui, enfin, c'est un choix de ma part. D'accord, aussi. Okay. Et un choix de la part de mes collègues, quoi.
Quand est-ce que tu auras des nouvelles par rapport à ça?
Tous les mois, on ne sait pas. On nous avait parlé du CEPOM, et là, on n'a pas de réponse.
Alors, est-ce que tu peux préciser ce que c'est le CEPOM?
Le CEPOM, c'est une espèce de cahier des charges qui est conclu entre... Parce que nous, on est dans un système tripartite. Donc, si tu veux, l'établissement est géré à la fois par la municipalité, qui est le simple gestionnaire, et également par l'ARS et par le conseil départemental. Donc, ce sont ces trois parties qui signent un contrat ensemble. Et il faut que les trois parties soient d'accord, bien sûr. Et nous, on dépend de tout ça. Donc, quand il y a une décision qui doit être prise, c'est un cahier des charges, je crois, qui est signé pour 4 ou 5 ans. Et tu as une certaine somme qui est allouée pour le fonctionnement à l'année, mais qui ne va pas bouger, même si dans 5 ans, il y a une inflation, il y a des frais qui changent. Ça va être pour 5 ans, point barre.
Et tu as le conseil départemental qui gère la partie dépendance?
Alors oui, mais le conseil départemental, c'est l'APA. Donc l'APA, qui est une aide à l'autonomie, qui est donnée en fonction du GIR de chaque résident, qui va de 1 à 6. Toi, tu es 6, quelqu'un qui est grabataire, qui ne peut plus rien faire, n'est à 1. Et donc chacun a une APA qui est allouée directement pour payer une partie de son loyer, de son hébergement au sein de la résidence. C'est comme ça que participe le conseil départemental. L'ARS fournit d'autres aides financières qui sont calculées différemment. Il y a aussi un autre système qu'on appelle le PATOS. Donc ça, c'est calculé en fonction d'autres critères. Tout ça, c'est très compliqué. Hein. Moi, je ne maîtrise pas bien. Bah, toujours est-il qu'il y a ce contrat qui doit être signé. Normalement, ça devait déjà être fait. Ça sera fait finalement en 2023. Et rien ne peut être avancé en termes d'organisation, de modification de planning sur la durée, tant que ce CEPOM n'est pas signé. Sauf qu'eux, ils veulent le signer avec des conditions qui aujourd'hui ne nous satisfont pas du tout. Moi, je suis titulaire depuis 2012. Je suis dans la collectivité depuis 2010 en tant qu'infirmier. Mon salaire, il n'a pas bougé depuis 2010, à part quand on a eu le Ségur, ça fait 6-8 mois. Alors, on a eu une augmentation de salaire de 180 euros, ce qui peut, pour certains, ne pas être énorme, mais nous, au prorata de notre salaire, c'est quand même une belle augmentation. Aujourd'hui, on a eu enfin cette augmentation qui est une des raisons pour lesquelles on reste. Parce que si tu veux, moi demain je vais faire du libéral, je tape à 5 portes, j'ai du boulot dans la journée, hein, pas un problème. Ou dans n'importe quel établissement, c'est pas un problème. On a la chance de faire un métier qui nous plaît, mais aussi, malheureusement, il n'y a pas assez de main d'œuvre. On veut aller ailleurs, on va ailleurs. Moi je reste aujourd'hui, pourquoi? Parce que j'ai une équipe infirmière qui est formidable. On a une envie de travailler, une cohésion mutuelle qu'on trouve dans peu d'établissements de soins, je le sais. Et je peux te dire, j'ai des collègues, des jeunes collègues de 23, 25 ans qui sont là depuis 3-4 ans, qui tous les mois, on peut leur dire le 25, on n'a plus besoin de toi le mois prochain. Tous les mois, elles descendent signer le contrat au mois le mois. Je suis pas sûr que ce soit légal. Un contrat, des CDD reconductibles d'année en année depuis 3-4-5 ans. Tu imagines? Et elles se défendent comme si c'était leur propre entreprise.
Elle... Qu'est-ce qu'aurait la main? C'est la mairie qui pourrait...
Ce sont les trois. La mairie est obligée de faire avec ce que va accorder l'ARS et le conseil départemental. Ce sont les trois. Nous, on fait pression sur la mairie parce que c'est notre interlocuteur direct. Pour être concret, un dernier exemple, voilà, je te dis, on a eu ces 183 euros. 6 mois après, on te dit, bon, d'accord, on t'a donné 180 euros, bon, maintenant, on va t'enlever tes dimanches qui sont récupérés et on va te faire travailler tant d'heures en plus dans l'année. Donc, si tu veux, on te prend plus 6 mois après que ce qui t'a été donné pour une fois en 10 ans. Donc, c'est pas du foutage de gueule, c'est du mépris total.
Moi, j'ai entendu plusieurs mots, c'est soit réquisition, soit assignation, voilà. Soit désignation.
Là, on est désigné.
Là, ce sont des désignations, mais je ne sais pas si ça a vraiment une valeur de réquisition. Pas sûr. Ouais. On va au boulot, hein, de toute façon. Je ne suis pas sûr que ça ait valeur de réquisition, j'ai un doute. Mais bon, quand on fait une grève, c'est qu'on n'a pas un pouvoir de blocage comme dans beaucoup d'autres métiers. Parce que de toute façon, on vient. On vient parce qu'on ne va pas laisser les résidents, les collègues. Voilà, c'est un état d'esprit qui est dans cette profession-là. Peut-être dans d'autres, mais on n'a pas ce pouvoir de blocage, effectivement. Donc la pression sur nos responsables n'est pas la même. Et alors là, ils te disent dans le journal, continuer comme ça parce qu'on fonctionne sur dégradation, sur désignation, et après sur mode dégradé, on va pouvoir continuer comme ça. De toute façon, ils savent qu'on va pas laisser l'EHPAD dysfonctionner. C'est des soins qui sont faits dans d'autres conditions. Ouais. C'est-à-dire que la douche hebdomadaire, qui est quand même un minimum, elle sera pas faite. Tous les soins, les petits soins, parce que les élus, les responsables, ils voient pas ce qu'on fait au jour le jour. Un soin au pansement, un soin aux plaies sur une plaie complexe, je peux de la faire en 30 secondes, comme parfois il me faut une demi-heure pour la faire. Et un escarre qui sera guéri ou jamais guéri, ou guéri en 6 mois ou en 3 mois. Ça, ils le voient pas. Et c'est valable pour tout.
Ils font appel à des boîtes intérimaires parce qu'ils trouvent personne. Donc en fait, on sera toujours, même en tant que en moment de grève, on sera toujours au quota, puisque ils arrivent à à prendre des gens en intérim alors qu'on est déjà à moins combien.
Fonctionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire empêcher les gens de mourir plus vite parce qu'ils ne voient pas la déshydratation des gens, le mal-être des gens, l'accompagnement quotidien de nos collègues aides-soignants qui connaissent bien les gens, qui connaissent tous les rituels. Donc tout ça, oui, l'EHPAD, il va continuer à rester ouvert, mais ils ne voient pas le mal-être des résidents. Pour eux, ils n'entendent pas ça là-haut, ils ne le voient pas. Ou ils vont dire qu'ils sont dans la compassion, je sais bien qu'ils ont leur responsabilité. Mais non, on est dans une réalité autre. Eux, leur intérêt, ça serait que peut-être que s'il y avait ce nombre d'heures augmenté, ces dimanches non récupérés, bah, ça leur permet peut-être de faire moins appel aux contractuels, donc avoir une masse salariale qui va diminuer et pouvoir, au niveau financier, permettre d'être à flot comme leur demande l'ARS et le conseil départemental pour signer ce CEPOM, justement. Maintenant, le problème, c'est qu'au niveau de la profession, aujourd'hui, on fonctionne sur énormément d'arrêts, sur des gens qui partent parce qu'ils estiment que justement ces contrats d'un mois renouvelables, ça leur va pas. On dit on trouve personne pour l'été. Évidemment, tu proposes des conditions de travail de merde. La moyenne de durée de carrière d'une infirmière, c'est entre 5 et 7 ans. 5 et 7 ans, elle change de métier après. Elle en veut plus. Ou un autre métier, oui, c'est comme ça. Regardez. Soignez les gens. Des moyens, au choix, on en a besoin, on les aura.
Ouais, voilà, on trouvait ça intéressant de relayer cette parole-là, parce que là, on entend les conséquences très concrètes qu'une baisse budgétaire et de moyens de personnel peut entraîner pour les résidentes et les résidents. Et en fait, quand on commence à creuser ce sujet-là, là, c'est vraiment une lutte qui peut se faire auprès de la collectivité, des élus, pour obtenir plus de moyens. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres résidences pour personnes âgées. Mais alors, soit c'est de l'associatif non lucratif ou lucratif, c'est pas forcément les mêmes tarifs. Et en fait, on se rend compte de l'importance que peuvent avoir ces sujets, à la fois concrètement aujourd'hui sur le personnel qui travaille et qui est dégoûté de ce travail parce que, comme disait la personne qu'on entendait, en fait, il lui suffit d'arrêter du jour au lendemain, de frapper à 5 portes et puis de retrouver du travail et probablement mieux payé. Donc, en fait, c'est important de défendre ces emplois publics. Et puis, c'est important aussi pour toutes les personnes qui vont vieillir et qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des résidences de luxe. Voilà. Et ça, on voulait du coup, en commençant à aborder la question, la creuser dans une émission plus complète sur la prise en charge de la vieillesse. Et cette émission, elle aura lieu le lundi 13 juin dans la Midinale, donc à ce même créneau horaire, dans 15 jours. Et là, on aura le temps d'aborder un peu plus profondément cette question de la prise en charge et puis de vous expliquer un peu, d'après ce qu'on a compris nous, le paysage en fait des résidences pour personnes âgées, le financement de ces résidences et puis d'entendre d'autres personnes en lutte aussi pour une vieillesse digne et prise en charge par le public.
Et on aura aussi normalement une petite partie sur... Alors, c'est pas un EHPAD, c'est un habitat collectif. Donc, c'est des personnes qui s'organisent, donc qui sont pas encore dépendantes, mais qui s'organisent justement pour réfléchir sur comment est-ce qu'ils vont vivre ensemble et comment ils vont faire un petit peu de l'autogestion, en fait, de la dépendance, même s'ils en sont pas encore à ce point-là. Donc, on aura cette petite partie... Également, donc l'émission est prévue le lundi 13 juin, donc dans la Midinale aussi.
Voilà avec aussi l'éclairage d'une universitaire qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, donc qui va nous apporter un peu d'analyse là-dessus. Et puis on parlera d'autres luttes sur ce sujet, parce qu'on le disait tout à l'heure, il n'y a pas qu'à Brest qu'il y a des luttes. Là, à Carré, en ce moment, il y a une grosse lutte avec des centaines et des centaines d'habitants et personnels de l'hôpital qui se mobilisent contre la dégradation de services et la fermeture de services. Et à ça s'ajoute un service gériatrie avec 12 lits qui ont été fermés il y a un an et qui n'ont jamais rouvert. Donc voilà, c'est une lutte qui s'amplifie et qui mérite vraiment d'être soutenue, parce que si on les perd maintenant, ces places, ça va être difficile de les récupérer, quoi.
complètement. J'ai vu qu'il y avait un autre interview dans le fil de cette médinale.
Ouais, c'est une dernière interview qu'on a faite auprès d'une personne qui travaille dans ces structures municipales et qui nous parle un peu de son quotidien. Donc, on voulait faire entendre aussi ce regard pour compléter tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et puis, ce sera une interview qui va clôturer un peu cette partie vieillesse de cette midinale d'aujourd'hui, mais avant encore une fois de se retrouver dans 15 jours pour en parler encore plus.
Pas de problème, avec plaisir. Donc on envoie l'interview, on enchaîne avec un autre morceau de Duo du Bas qui s'appelle Final, ou je ne sais pas si c'est vraiment le titre, c'est peut-être Final de ce fil. Et puis on revient après pour un petit agenda.
Tout à fait.
Allez.
Qu'est-ce que c'est à l'heure actuelle en fait la situation dans les EHPAD? Qu'est-ce que le manque de personnel par exemple peut engendrer au niveau des soins? C'est des questions qu'on n'a pas encore posées.
La principale question, c'est le manque de personnel. Des établissements qui ont par exemple 60, 80, 90 résidents, s'il n'y a par exemple que 5 soignants pour 90 résidents, on ne peut pas avoir le temps de discuter avec eux, d'écouter leurs petits problèmes, leurs petits bobos. Les soignants vont être là pour changer leur lit, pour nettoyer la salle. Ils ont 5 minutes chrono pour faire 20 chambres, sinon ils sont dans le jus. Le problème de la maltraitance de nos anciens, le problème, il vient de là, du manque de personnel.
Là, aujourd'hui, le personnel qu'il y a permet de faire vraiment le nécessaire, quoi. Enfin, vraiment le ménage, les soins primaires, mais pas plus. Qu'est-ce que toi, il te semblerait pertinent d'avoir en plus comme service s'il y avait plus de personnel, enfin, qu'est-ce que ça pourrait permettre?
En maison de retraite, on estime, je ne sais pas pourquoi, mais les gens ont fait leur vie, ils ne servent plus à rien. On les met dans des cages à poules, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, tout seul. Même la famille, pour certains, ne vient même plus. Il y aurait plus de personnel, ça permettrait de pouvoir les accompagner dans leur vie quotidienne, de pouvoir les écouter, de pouvoir les soigner correctement, comme tout à chacun devrait avoir le droit. On ne se pose même pas la question quand on va à l'hôpital, on est reçu, on est soigné. Chez nos anciens, ça devrait être pareil. Voilà. Après, moi, je travaille dans une structure qui est un peu différente de celle des EHPAD à Brest. Je suis dans une structure d'autonomie. Nos résidents sont libres de faire ce qu'ils veulent, ils ont leur appartement, ils ont juste le repas du midi qui est obligatoire, parce que certaines personnes n'ont pas beaucoup de moyens, et s'ils n'ont pas le repas obligatoire, ils ne mangent pas du tout, ce qui est complètement aberrant, mais ça je pense aussi que la tarification des maisons de retraite, ils devraient bien nous donner sur quoi ils se basent pour monter des tarifs aussi élevés au niveau des logements, c'est totalement aberrant. Maintenant, nous, chez nous, nos anciens, bon, ils viennent manger. Ça peut être compliqué parce que les caractères, des fois, de certains, ou les pathologies, nous, on n'est pas formés pour. Mais on est obligé de les gérer quand même. On fait en sorte que ça se passe bien, mais pour le personnel, c'est extrêmement compliqué, extrêmement fatigant. Pour beaucoup, on n'a pas l'impression qu'être agent hôtelier, servir des gens, c'est pas fatigant. Mais si, c'est fatigant parce qu'il faut tout le temps s'adapter aux personnes qui arrivent et c'est très très dur, très très usant.
Est-ce que toi, tu penses que c'est mieux d'avoir des petites structures avec peu de résidents ou des grosses structures? Qu'est-ce que tu penses qui serait le mieux?
Des petites structures, c'est l'idéal. Ça, parce que faut pas que ça devienne des usines non plus à Afrique. Chez nous, c'est une petite structure. On est une grande famille. Tout le monde se connaît. On connaît tout le monde. Donc automatiquement, l'environnement où nos vieux vivent, c'est serein, c'est calme. Tout le monde se connaît. Il y a toujours un petit coup d'humour. Après, plus ça va être grand, et moins les gens vont se connaître, et plus ça va être des usines Afrique et à faire mourir les gens.
Et donc, pour bien comprendre, ils intègrent la résidence autonomie, donc relativement autonome, c'est le principe, mais ils peuvent finir leur vie dans ces résidences autonomies. Donc finalement, à un moment, ils sont plus si autonomes.
Il y a un moment, non, on n'est plus autonome. Certaines pathologies, comme Alzheimer, beaucoup, qu'arrivé à un certain âge, bon, bah, malheureusement, le cerveau prend quand même un petit coup. Et nous, on n'est pas une structure pour pouvoir encadrer ce genre de pathologie. Donc, des dossiers sont faits avec les familles pour pouvoir trouver une place par la suite dans les EHPAD. On va dire que la résidence autonomie est le temps palier qui est avant l'EHPAD, pour ceux qui le souhaitent.
Mais tu dis que c'est un choix de la part des personnes, mais du coup, ça veut dire que la résidence autonomie, elle accepte quand même des personnes qui refusent d'aller en EHPAD et elle accepte que les personnes restent en résidence autonomie ?
Alors, en fait, quand il y a les critères que j'ai parlé tout à l'heure précédemment, c'est il y a ce qu'ils appellent les GIR. GIR 6, GIR 5, GIR 4, GIR 3, GIR 2, GIR 1. Plus le GIR est élevé, plus la personne est autonome. Nous, on accepte normalement, c'est le GIR 6, GIR 5. Après, le souci, c'est qu'il faut remplir. Donc, il y a plein de personnes qui ont des pathologies qui ne rentrent pas dans le GIR. Mais comme il faut remplir les appartements, parce que si y a, les appartements sont vides, il n'y a pas d'argent qui rentre et le budget, tout ça, enfin, tout le monde connaît la tambouille, on prend des gens avec des pathologies, certains très lourdes, des schizophrènes, des alcooliques, mais voilà. Mais ils ont tout à fait le droit d'intégrer la structure puisqu'ils ne rentrent pas dans ce contexte-là. Après, nous, en tant qu'employés, on n'est pas... c'est compliqué, on n'a aucune formation pour pouvoir gérer ce genre de personnes. Pourtant, légalement, ils rentrent dans le programme. Mais nous, derrière, comment on gère quelqu'un qui est en crise de schizophrénie ? Comment on gère quelqu'un qui est pris de crise de mélancolie ou qui casse tout chez lui, qui agresse les autres résidents ?
Est-ce que vous auriez besoin de davantage de formation pour mieux faire face à ces situations ?
Alors, on a la chance d'être fonctionnaire. Si on veut faire des formations, on peut en faire. Maintenant, c'est quand même un secteur d'activité qui est particulier. Je pense que la collectivité, ça c'est mon avis personnel, on devrait rendre obligatoire certaines formations pour travailler avec des personnes handicapées ou âgées ou avec des pathologies assez lourdes. Là, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre des remplaçants. Quelqu'un qui tombe malade, on met quelqu'un, un remplaçant, hop, dans l'entreprise, qui ne connaît absolument rien du tout du milieu de la gérontologie. Comment engager une conversation avec quelqu'un qui a Alzheimer, quelqu'un qui a des angoisses parce que plus les personnes vieillissent, même les plus stables mentalement, ont des angoisses quotidiennes. L'approche de la mort, de les enfants qui grandissent, les petits-enfants qui partent, c'est dur, mais ça s'apprend pas.
Et moi, ce que j'entends aussi de ce que tu dis, c'est que du coup, il y a des contrats très courts de remplacement. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, des contrats courts.
Il y a beaucoup de contrats courts. Et ça, c'est un problème parce que déjà, ça ne motive pas au niveau de l'attractivité du métier. Ça, c'est clair. Et puis nous, ça ne nous aide pas non plus parce que les contrats courts qui vont arriver dans des établissements comme ça, déjà, il leur faut un temps, faut quand même un certain temps pour pouvoir s'adapter au milieu. En général, ils vont faire 3 mois, et au bout de 3 mois, ils vont partir. Et c'était là où ils étaient le plus efficaces. Et c'est pas bon. Nous, ça nous met plus des bâtons dans les roues. Faut mieux. En plus, ils demandent du monde, mais qu'ils fassent des grands contrats. Ça leur coûtera pas plus cher. Et ça fera des heureux, parce que les gens auront du travail et pourront vivre dignement.
Bah si, justement, ça leur coûte peut-être plus cher et c'est pour ça qu'ils ne le font pas, mais...
Voilà, mais quand même, un petit peu d'humanité, ça ne serait pas du luxe.
C'était le plus beau taillou de tous les tangos du monde. Je dansais toutes les danses très bien. C'est celui
que j'ai. Devant la nature qui me regarde passer, souvent on me fait barrage avec les bois qui me tombent dessus. Parfois on me jette une poubelle sur mon lit. Que c'est triste pour moi d'être de passage. Et pourtant je cherche à tout faire pour être encouragée. Dans l'eau, les gens me regardent au fond comme un miroir, mais ils ne se voient plus, je suis trouvée. Au bord de la rivière,
je vais faire un tour plus près des temps de Bonheur là-bas, à pied. Et je vais jusqu'à l'étang. Et des fois, je trouve quelqu'un, si je trouve des racines, il vient me les amener. C'est là qu'on allait les chercher avec mon mari.
On aime bien ma voiture.
Parce qu'il avait sa voiture.
Ah oui. On aime bien beau, là, tout, beaucoup. Et puis, allez, on y va. Là, des fois, je danse en chaussettes.
Vous trouvez, là, la boule, là, c'est un mec qui me l'a trouvé. Un mec de Bordeaux.
Ah oui, il a tellement l'habitude.
Il vient m'acheter des toiles. Et ce mec, il a un magasin.
Parce que moi, je
suis pas 18. Et puis, des bananes. C'est pourquoi des bananes? J'étais champion de France du grand mangeur de bananes, c'était moi à Poitiers.
Bah ouais.